musique.
Bonjour et bienvenue. Il est 15h en temps universel, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, un deuxième jour de confrontation entre Israël et l'Iran, au lendemain de la vaste offensive lancée par l'État hébreu. L'armée israélienne lance actuellement des raids contre plusieurs sites. L'Iran, de son côté, a tiré des dizaines de missiles, faisant 3 morts et 40 blessés. L'Iran qui déplore, de son côté, 78 victimes. Aux États-Unis, Donald Trump a vu les choses en grand pour fêter les 250 ans de l'armée américaine, l'anniversaire qui coïncide avec ses 79 ans. C'est Roger Federer, la légende du tennis, qui a donné le coup d'envoi des 24 heures du Mans. La 93e édition s'annonce très disputée entre les prétendants, les Ferrari, Toyota ou bien encore Porsche et Cadillac. La dynamique guerrière tant redoutée est enclenchée au Moyen-Orient. Israël et l'Iran ont donc poursuivi aujourd'hui leurs échanges de frappes, échanges déclenchés par l'attaque israélienne massive hier contre des sites militaires et nucléaires. Israël a frappé les défenses aériennes dans la région de Téhéran, ainsi que des dizaines de lanceurs de missiles. Et cet après-midi, l'armée de l'État hébreu indique qu'elle mène de nouveaux raids. Qualifiée de déclaration de guerre par l'Iran, les attaques ont, selon un bilan officiel iranien, fait au moins 78 morts et tué les plus hauts gradés du pays. L'Iran a riposté en tirant des dizaines de missiles balistiques, certains atteignant le territoire israélien, faisant 3 morts. L'armée israélienne l'affirme, 2 sites nucléaires iraniens ont été considérablement endommagés par ces frappes. Or, pour une spécialiste, Emmanuel Galichet, ce sont des sites enterrés et on ne sait pas si l'impact sur l'enrichissement d'uranium sera important. Emmanuel Galichet au micro d'Anne Verdaguer.
Israël a largement ciblé le nucléaire iranien dans 2 sites d'enrichissement d'uranium, Natanz et Fordo. Mais apparemment, aujourd'hui, ce qu'on en sait, c'est que ces sites sont des sites enterrés. Les bombardements n'ont pas touché de manière stratégique, je dirais, fortement les installations qui sont en souterrain. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est dramatique pour l'Iran. C'est sûr que ça les ralentit. Est-ce que ça les a ralentis vraiment fortement ou juste un peu? Ça, pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus. Grâce à l'AIEA, hein, qui a des caméras sur place et qui a des experts qui sont allés sur place, on sait qu'il y a un gros doute sur l'ambition civile de l'Iran sur l'énergie nucléaire. Ils enrichissent l'uranium au-delà de ce qu'ils auraient besoin pour faire des simples réacteurs civils. Ils sont en train d'enrichir à plus de 60%. On a vu des traces à peut-être 80%, ce que dit l'AIEA. Donc là, on est à peu près sûr aujourd'hui qu'ils ont une ambition de faire l'arme atomique.
Emmanuel Galichet enseigne la physique nucléaire au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Hier soir à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence. L'Iran a accusé les États-Unis d'être complices des attaques d'Israël, accusation rejetée par la diplomatie américaine. Les autres membres du Conseil ont appelé à la retenue dans la région. Dans ce cadre, Téhéran estime qu'il n'y a pas de sens à ce que soient maintenus les pourparlers avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Un nouveau cycle devait se tenir demain dimanche dans le sultanat d'Oman. Or, on vient de l'apprendre par la voix d'un responsable américain. Les États-Unis, eux, veulent poursuivre les négociations avec l'Iran. Parmi les réactions, celle du pape Léon XIV, il a lancé ce matin aux deux protagonistes un appel à la responsabilité et à la raison. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il espère que la confrontation Israël-Iran ne conduira pas à une baisse de l'aide occidentale à Kiev. Emmanuel Macron a lui dénoncé lors d'une conférence de presse à l'Élysée la lourde responsabilité de l'Iran dans la montée des tensions avec Israël, des tensions qui, aux yeux du président français, menacent le monde entier. Pierre-Olivier.
Le ton grave, Emmanuel Macron parle d'une nouvelle étape dans la guerre qui se joue dans la région. Il pointe du doigt l'Iran. Il y a 3 jours, Téhéran a en effet annoncé accélérer son programme d'enrichissement d'uranium.
Le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement la stabilité collective.
En conséquence, Emmanuel Macron affirme son soutien à l'État hébreu, même s'il indique que la France n'a pas participé aux frappes de l'armée israélienne sur l'Iran.
Nous soutenons la sécurité d'Israël, et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël.
Outre de potentielles conséquences économiques, notamment sur le pétrole, le chef de l'État annonce avoir pris des mesures pour assurer la sécurité des Français, notamment au Proche et Moyen-Orient.
Pour garantir la sécurité de nos ressortissants, de nos troupes et de nos ambassades, je demande à nos compatriotes de ne pas se rendre sur place, quel que soit le prétexte.
Autre conséquence de cette escalade entre Israël et l'Iran, la conférence prévue à l'ONU la semaine prochaine à New York pour la création d'un État palestinien a été reportée sine die.
Reportage à l'Élysée signé Pierre-Olivier au deuxième jour de la confrontation Israël-Iran à suivre sur RFI l'émission spéciale géopolitique à 19h10 heure de Paris ainsi que RFI.fr, le live blog de la rédaction internet. En Inde, avec un total d'au moins 279 morts, le bilan de l'accident de l'avion de la compagnie Air India jeudi s'est alourdi. Le Boeing 787 devait se rendre à Londres. Londres où, en signe d'hommage, une minute de silence a été observée ce matin lors de la parade militaire célébrant l'anniversaire du souverain britannique. Aux États-Unis, les anti-Trump sont dans la rue. De nombreuses manifestations ont lieu dans tout le pays contre la politique jugée autoritaire du locataire de la Maison-Blanche. Les opposants ont choisi le slogan No Kings, pas de roi. Au programme également, la grande parade militaire voulue par le président républicain pour les 250 ans de l'armée américaine. Donald Trump a voulu fêter en grand cet anniversaire qui tombe aussi le jour de ses 79 ans. Marine de la Moissonnière.
C'est en assistant aux cérémonies du 14 juillet à Paris en 2017 que Donald Trump s'est dit qu'il aimerait bien lui aussi avoir son défilé. Le président américain, qui n'a jamais fait son service militaire, est fier d'être, comme il aime à le répéter, à la tête de l'armée la plus puissante du monde, une armée qu'il tente, comme beaucoup d'autres institutions, de mettre au pas, quitte à la fragiliser, en envoyant des soldats surveiller la frontière avec le Mexique ou en les déployant dans les rues de Los Angeles. Donald Trump les met au service de ses combats idéologiques et politise l'armée. Ce défilé, ce n'est donc pas vraiment pour la célébrer, mais plutôt pour se faire plaisir. On va crâner un peu, a reconnu Donald Trump. Les parades militaires ne sont pas du tout dans les habitudes américaines. La dernière remonte à 1991 et à la fin de la guerre du Golfe. Les détracteurs de Donald Trump dénoncent un coûteux défilé à sa gloire, digne d'un dictateur. Des manifestations d'opposants sont prévues ce samedi dans tout le pays à l'occasion de ce qui a été baptisé le No Kings Day.
En France, il est trop fort pour la concurrence. Olivier Faure a été officiellement reconduit à la tête du Parti Socialiste avec un peu plus de 51% des voix. Il a devancé son concurrent Nicolas Maillet-Rossignol, le maire de Rouen. Il y a 6 mois, jour pour jour, le cyclone Chido frappait Mayotte, île française de l'océan Indien, faisant 40 morts, 40 disparus et laissant un territoire dévasté, une île déjà confrontée à de multiples problématiques. 6 mois après, Lisa Morisseau s'est rendue dans une agence de communication, Inetcom, dont les locaux ont été dévastés par Chido. La reconstruction avance très lentement.
Ici, c'était le studio.
L'agence de communication est méconnaissable. L'entreprise de 17 salariés possédait des équipements audiovisuels dernier cri. L'intégralité a été ravagée par le cyclone, ce qui représente 250 000 euros de pertes selon Zamir Saïd Ali, le directeur de production. Pour envisager une réelle reprise de l'activité, l'agence a besoin des aides.
Pour acheter du matériel, etc., bien entendu, on est obligé d'attendre de recevoir les sous de l'assurance. En même temps, on attend aussi des créances clients pour pouvoir aller racheter du matériel. Et on a déposé des dossiers de subvention.
La situation d'Inetcom n'est pas un cas isolé. Des professionnels et des particuliers se retrouvent bloqués dans l'attente des aides financières. De l'autre côté, de nombreux artisans ne peuvent pas non plus entamer des travaux de réparation. Bouraïma Ali Ousseni est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte.
Aujourd'hui, les marchés, il y en a très peu. Il y a eu beaucoup de commandes qui ont été faites en urgence par rapport au passage du cyclone. Beaucoup d'artisans ont été mobilisés. Aujourd'hui, 6 mois après, ils ne sont pas payés par les collectivités.
De fait, il est impossible pour eux de démarrer un chantier sans avoir les moyens d'acheter du matériel ou de payer leurs salariés. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Enfin, le sommet des Nations Unies sur les océans est maintenant terminé. La principale annonce figurant dans les engagements de Nice est la prochaine entrée en vigueur du traité sur la haute mer, accord qui vise à mieux protéger les eaux internationales. Très bonne journée sur RFI, elle continue avec tous les cinémas du monde.